Philosophie du vivant par le Père Philippe à Saint-Jodin, le 7 juin 90.
pensée n'est vrai que lorsqu'il est conforme au réel. Autrement, il est harmonieux, mais n'est pas vrai. On construit un ordre organique de forme intentionnelle. C'est grâce à la vie intellectuelle qu'on peut discerner ce que représente ce domaine intentionnel. Signification. La signification. Le champ d'action de la vérité est très limité. Alors évidemment, je peux faire confiance à un homme qui était dans la lune et qui a touché certaines choses que moi je n'ai pas touchées. Moi je fais confiance. C'est la foi. C'est plus que l'opinion, c'est la foi. Je peux faire confiance à un très grand savant qui me donne des résultats. C'est la foi. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup de peine d'accepter la philosophie. Parce que la philosophie est là toujours pour rappeler que le champ d'action de la vérité est limité. On a tellement envie de s'évader. Les mathématiques permettent une évasion extraordinaire, permettent une construction de mondes multiples et divers. Ainsi que la logique mathématique, ça permet des quantités de construction. Mais le réel est limité pour chacun d'entre nous. Et le propre de la connaissance philosophique, c'est justement de ne jamais s'évader du jugement d'existence. Toute la pensée philosophique est liée au jugement d'existence. Alors, c'est important de saisir que dans ma vie, l'esprit, il y a toujours les deux orientations, toute possibilité d'une philosophie idéaliste qui n'est plus une philosophie et qui est une idéologie. Mais si je suis dans l'idéologie, j'aime mieux les mathématiques qui sont plus réelles que l'idéologie et qui ont une certitude la plus grande qui soit. Alors ça, c'est aussi très important en philosophie du vivant, de voir que la qualité dominante de la pensée intellectuelle, c'est la vérité. Avec la vérité, je suis en face du problème de l'évidence et du problème de la certitude. C'est important, puisque ça me permettra de critiquer ça, les degrés d'évidence et de vérité et les degrés de certitude. Il y a toute une série d'évidences plus ou moins grandes où l'évidence est-elle la plus grande, où la certitude est-elle la plus grande. Alors c'est sûr, ces problèmes d'évidence et de certitude, je les revois en critique, mais il faut les voir du côté de la vitalité de l'intelligence. Vous voyez, l'évidence de l'intelligence est quand elle touche le réel. Et la certitude est une conséquence de l'évidence, qui est l'aspect subjectif. J'en ai l'évidence, j'en suis certain. Mais la certitude va plus loin que l'évidence. Il y a des certitudes au niveau purement idéologique. Alors là, on va entrer dans un autre domaine. Qui sera justement l'extension des certitudes. Tandis que l'évidence est toujours limitée au réel. Et alors là, je suis obligé de poser cette troisième opération de la vie d'intelligence, qui sont les raisonnements. Que l'intelligence aime particulièrement, parce que dans les raisonnements, elle devient mesure des conclusions. Le raisonnement, c'est ce que mon intelligence est capable de créer entre guillemets. C'est la fécondité de la vie d'intelligence. Donc c'est agréable, évidemment. Par là, je vois que j'ai une certaine fécondité intellectuelle quand je me mets à raisonner. C'est pour ça qu'on aime de raisonner indéfiniment, parce qu'on est avec ses enfants. On est avec tout ce qui est le fruit de notre vie intellectuelle. Toutes les conclusions que nous avons, ça vient de nous. Et nous aimons les regarder. Alors vous voyez là, la certitude va plus loin que l'évidence. l'intuition, mais la certitude avant la vérité, ce que fait Descartes. On mettra les mathématiques avant la connaissance métaphysique, avant la connaissance philosophique, et on ramènera la philosophie aux mathématiques. Et ça, c'est le génie de Descartes qui fait ça. Descartes est génial du côté de la certitude, mais il est aveugle du côté de l'évidence. Il est aveugle du côté de la vérité. Il sait plus ce que c'est que la vérité. Mais il est génial du côté de la certitude. C'est le grand philosophe de la certitude. C'est extrêmement curieux à ce point-là. C'est celui qui va exalter les mathématiques de façon étonnante. C'est pour ça qu'il voudra que nos raisonnements soient toujours d'un type moto-géométrico. Donc le mode le plus certain. Là, vous voyez, là, dès que je suis dans l'ordre de la fécondité de la vie intellectuelle, ce sont mes raisonnements. Mes deux grandes directions des raisonnements, l'induction et la déduction. L'induction me permet d'analyser. Le fruit de l'induction, c'est la découverte de principes qui ont une évidence propre, purement intelligible, qui ont leur évidence propre. Le principe a son évidence propre. Mais le principe saisi par l'induction reste relié à l'expérience, donc au jugement d'existence. Mais il a son évidence propre. Le principe permet de saisir une évidence purement intellectuelle. Et c'est pour ça que quand vous êtes à parler de principe à quelqu'un qui est plongé dans la psychologie freudienne, il vous demandera la justification des principes. Est-ce que vous êtes sûr de saisir un principe? Est-ce que vous êtes certain? Ah oui, on est certain. Mais prouvez-le-moi, ça ne se prouve pas. Alors, immédiatement, donc c'est pas certain. Ce raisonnement, j'ai entendu plusieurs fois. C'est pour ça que je vous le dis. Il est très intéressant. C'est peut-être plus de la critique que de la philosophie du vivant, mais c'est dans la philosophie du vivant aussi. Parce que où est la vitalité propre de l'intelligence? Est-ce que la vitalité propre de l'intelligence, c'est la certitude? Ou est-ce que la vitalité propre de l'intelligence, c'est la vérité? Vous voyez, là, il y a une option très grande. La vitalité propre de l'intelligence, quand c'est la certitude, c'est devenir petit bourgeois dans l'ordre de la connaissance. Quand c'est la vérité, c'est l'ouverture à la contemplation. C'est très intéressant de voir ça. La France est devenue petit bourgeois à partir de Descartes. Je regrette, mais c'est comme ça. Intellectuellement parlant. Parce qu'elle a cherché la certitude. Donc elle a perdu la contemplation. Et elle est tombée dans la méditation, à la place de la raison. Ah, vous trouvez le tournant. Puisque toujours les théologiens désirent être à la mode. On a demandé à Descartes, il ne faut pas l'oublier, de faire une nouvelle théologie. Oui, c'est une maladie, ça. On a demandé ça à Descartes, de faire une nouvelle théologie. Et Descartes, parce que, justement, il est complètement aveugle, quand il s'agit de la vérité, a voulu faire une nouvelle théologie en commençant par l'Eucharistie. Et alors, c'est très intéressant de regarder la théologie de Descartes sur l'Eucharistie. Pour s'apercevoir qu'il ne peut pas, qu'il est dans l'impossibilité. Ça, c'est très très intéressant de voir ça, parce qu'on voit bien une option. Vous voyez, si on faisait l'histoire de la philosophie européenne, on verrait cela d'une façon très nette, qu'à partir de Descartes, la philosophie européenne s'est inclinée vers la certitude. Donc sur le repliement d'elle-même et sur l'aspect subjectif. Et que la vérité a été abandonnée. Or, il n'y a d'exigence contemplative que quand on cherche la vérité. vitalité de l'imaginaire, si l'intelligence a une vitalité plus grande que l'imaginaire et connaissance, je dois faire confiance à l'intelligence. Et ne pas faire confiance à l'intelligence, c'est l'été noir de ma vie intellectuelle. Et donc c'est la suppression de la contemplation. Vous voyez, c'est extrêmement important puisque c'est à partir de là que va naître le positivisme. Et le positivisme est la plus grande plaie moderne, plus que le marxisme. Parce qu'il est sans odeur politique, inodore, sans saveur politique. Et alors il nous enferme.
La nature.
dans les orientations avec divers pourquoi. Et là, on voit l'importance de l'interrogation qui ouvre des chemins. C'est pour ça que la vie de l'intelligence s'exprime dans l'interrogation. Ça, c'est la vie de l'intelligence. L'intelligence, par l'interrogation, reste en suspens. Mais elle va aller plus loin que la constatation immédiate. Elle veut pénétrer, aller plus avant. Et parce que j'interroge, j'induis. Et donc, la suppression de l'interrogation supprime l'induction. Quand j'ai induit et que j'ai saisi des principes propres, je peux, à partir de là, déduire. Et la déduction se fait à l'intérieur des principes propres. Je déduis une conclusion. Et j'aurai à ce moment-là des connaissances certaines, scientifiques, au niveau aristotélicien, au niveau grec, l'épistémé. Et je pourrai confronter ces conclusions avec le réel en les appliquant pour voir si c'est conforme à la réalité. Constamment ce point de vue des conclusions philosophiques, puisque le mot science là veut dire philosophique, et je vois là toute la fécondité de ma vie intellectuelle. Vous voyez, la fécondité de la vie intellectuelle s'exprime de deux manières: creuser plus avant l'induction, s'enrichir et s'étendre, la déduction. C'est le double mouvement par lequel l'intelligence montre sa vitalité. On dira analyse et synthèse, c'est pas tout à fait juste, hein. C'est pas analyse et synthèse, mais on dira ça habituellement. Mais parce que l'induction c'est l'analyse, et la déduction c'est la synthèse, mais l'induction n'est pas du tout une synthèse. C'est au contraire voir les propriétés, voir toute la richesse, tout le rayonnement des principes. Tout ce qui est impliqué dedans. Vous voyez, c'est exploiter le capital des principes, la déduction. Donc il faut être un tout petit peu banquier de l'intelligence. Voir tout ce que l'intelligence a pu saisir, et voir toutes ses richesses. Alors on voit toutes les déductions possibles. Et les déductions restent dans un domaine de déviance. principaux.